un parmi vous. Vous êtes l'occasion pour moi de beaucoup de joie, il y a beaucoup de fraîcheur qui viennent de vous. Merci aux choristes et permettez-moi, puisqu'il était tout seul, de féliciter Mong pour la belle voix qu'il a quand il se libère. Parce que quand il se détend complètement, il a une voix qui est vraiment bien placée et très agréable à entendre. Ceci étant dit, j'ai choisi ce thème « Comment être heureux en 2014 ?» tout simplement parce que dans un journal, l'Express, il y a 15 jours, 3 semaines, c'était le titre de couverture avec tout un dossier à l'intérieur de ce journal. Et le titre, c'était donc « Comment être heureux en 2014 ?» Alors, je me suis un petit peu penché sur le sujet. Nous avons dans les Saintes Écritures bien des livres, et entre autres le livre de l'Ecclésiaste. Et donc, l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. Et il a effectué toute une période de sa vie à chercher le bonheur, dans toutes les directions. Et donc la Bible nous parle d'un homme richissime, nommé l'Ecclésiaste, qui a cherché à connaître le bonheur. Il a voulu essayer tous les plaisirs de la vie, nous dit-il. Il a fait de grands projets, il a réalisé énormément de choses. Il a aussi travaillé avec acharnement. Il a goûté à tout ce qui était possible à portée de sa main. Et puis voilà sa conclusion. Il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce qui se fait sous le soleil. Chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste, verset 11. Et c'est comme un leitmotiv, ce verset. Il est repris assez régulièrement dans le livre. Pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Mais parce qu'à tout instant, par la mort, ces choses peuvent être anéanties. Tout ce que l'on a pu construire, tout ce à quoi on a pu goûter, tout ça, on va le laisser. Et on peut le perdre dans un crash économique, mais on peut aussi le perdre, évidemment, en perdant le souffle de vie. Et du coup, nous, en tant que chrétiens, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet du bonheur ? On pourrait se demander si vraiment il est bien de chercher à être heureux, puisque c'est le désir de tout le monde d'être heureux, mais qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet d'être heureux et au sujet du bonheur ? Peut-être n'est-ce pas indispensable d'être heureux ? Pourquoi ? Parce que le but de notre vie n'est-il pas plutôt d'être utile au monde, à servir à quelque chose afin que notre vie ait un sens ? La question de notre propre bonheur n'est-elle pas une question moderne ? J'ai réfléchi et, comme vous le savez, ma maman va, Dieu voulant, dans 2 mois, le 11 septembre, va avoir son siècle d'existence. Et j'ai réfléchi à la façon dont elle m'a enseigné, mais il me semble qu'elle ne m'a jamais parlé du bonheur. Elle m'a expliqué comment vivre pour les autres, comment respecter ses parents, comment respecter les uns et les autres. Mais je n'ai pas souvenir dans mon enfance d'avoir été enseigné sur le bonheur. Je l'ai plutôt vécu. Je l'ai vu chez mes parents. Et étant d'origine grecque, on avait toujours, je crois que je l'ai déjà dit ici, on avait toujours, quand on dressait la table, une assiette en plus pour la personne qui pourrait sonner à la porte ou frapper à la porte, et puis on pourrait l'accueillir. Et il n'y avait jamais un repas, on ne dressait jamais la table sans un couvert supplémentaire. Et c'est ainsi que mes parents, mon papa étant mort quand j'avais 8 ans, je l'ai peu connu, mais ce qui me reste de ce souvenir d'enfance et de mon éducation, c'était, oui, de penser aux autres et de se dire qu'on était là pour un but bien précis. Et on ne vivait pas, je me souviens, ma mère me disait, tu ne vis pas pour toi tout seul. Tu t'es pas fait tout seul et tu ne dois pas vivre pour toi tout seul comme un égoïste. Voilà. Mais jamais j'ai entendu parler de bonheur. Par contre, j'en ai profité. Bonheur et joie dans la maison. Donc c'est une question moderne, cette recherche effrénée du bonheur. Et puis finalement, c'est une question très égoïste. Parce que voilà qu'on se place au milieu. On veut être heureux, on veut trouver le bonheur. Alors je dois tempérer ces premiers propos par l'équilibre que les Saintes Écritures nous enseignent. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien reconnaître que le bonheur, c'est important. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cette bascule, cette balance en permanence entre la vanité des choses, la futilité de toutes choses, et la joie et le bonheur de bien faire son travail, d'avoir une activité. Et il y a là donc un équilibre extrêmement intéressant et intelligent de la part de Dieu qui nous permet de nous rendre compte que, oui, il y a un bien-être à faire correctement les choses, mais on ne doit pas placer toute son espérance dans ces choses et dans cette manière de vivre, parce que tout cela est passager. Mais néanmoins, c'est important. C'est important parce que l'on ne peut faire vraiment bien quelque chose que si l'on en est heureux. Je suis heureux de faire ça. D'ailleurs, je suis sûr que si je savais quels sont vos hobbies, je vous dirais, tiens, on va faire ça, votre hobby, vous me direz, oh Jean, d'accord, on y va. C'est spontané parce qu'on aime ça. Un bon musicien est heureux quand il joue et ne joue vraiment bien que s'il aime jouer la musique. Un médecin qui n'aime pas ce qu'il fait ne peut être un bon médecin. Et comment un pasteur triste annoncerait-il la bonne nouvelle de l'Évangile? Vous voyez, ça ne peut pas aller. Il y a donc un paradoxe. L'Évangile nous dit que notre plaisir, notre bonheur, ne doit pas être l'objet de notre quête. Mais en même temps que c'est en suivant l'Évangile qu'on trouvera le bonheur. L'Évangile nous demande de nous sacrifier, mais il nous dit aussi que si on le suit, on aura nous-mêmes la vie. En fait, la solution est simple. L'Évangile nous dit de ne pas rechercher notre propre bonheur, et qu'en fait, c'est précisément comme cela qu'on peut le trouver. C'est formidable, ça. Sous-entendu, occupez-vous du royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez, on reboucle avec une parole du Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus a dit que qui veut sauver sa vie la perdra. Hein, la recherche effrénée du bonheur va nous amener à tenter de sauver notre vie. Donc qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. C'est-à-dire, si je me tourne vers les autres pour servir le Christ, eh bien je vais trouver la joie et le bonheur. Le bonheur ne se trouve que si on ne le cherche pas. Alors, on va développer un petit peu le fait d'où provient le bonheur et qu'est-ce que c'est que le bonheur. Alors, là-dessus, l'Évangile est clair. Il y a deux passages en particulier qui sont fondamentaux. D'abord, dans le livre des Actes, chapitre 20, versets 32 à 35, que nous avons lu, enfin plutôt qui nous a été lu, une parole du Seigneur qui a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc c'est le principe pour trouver le bonheur, c'est de se donner. Se donner à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, lui va nous envoyer vers les autres. Et puis, il y a un texte que je n'ai pas indiqué pour la présidence de ce culte, mais qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 17. Lorsque le Seigneur, après avoir lavé les pieds de ses disciples, les incite à faire de même en se faisant serviteurs les uns des autres. Et le Seigneur conclut, « Vous êtes heureux, dit-il à ses disciples, si vous savez cela, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Le bonheur, c'est donc s'oublier soi-même pour servir le Seigneur, quelqu'un d'autre, et en même temps faire ce que le Seigneur nous demande de vivre. Cela nous apprend donc quelque chose de très important. Le bonheur est essentiellement dans le service. Servir le Seigneur, se servir les uns les autres. Il consiste à sortir de soi, de son égoïsme pour aller vers les autres. Ainsi, le mot extase, qui a quelque chose à voir avec le bonheur, vous savez, quand on est en extase devant un tableau, devant je ne sais quelle chose particulière, quand on est en extase, littéralement, on sort de soi-même. C'est ça la signification littérale d'extase, donc ce préfixe ex, hors de. Donc on sort de soi-même. C'est pour cela qu'on ne peut trouver le bonheur en le recherchant, Parce que chercher son bonheur, c'est rester dans une démarche purement égoïste ou égocentrique. Par ailleurs, le mot « heureux » vient d'un mot hébreu qui signifie, tenez-vous bien, « debout et en marche ». Être heureux, c'est celui qui est debout et qui marche. Donc, qui est actif, qui fait quelque chose, qui va dans une direction. Et toute la signification du bonheur, elle se trouve là, dans ces deux mots, si je puis dire. Sortir de soi-même, avancer, marcher, et se tenir debout, pardon, et puis marcher. Le bonheur, ce n'est pas un état, c'est une démarche. On ne peut pas vivre uniquement avec le bonheur d'hier. Vous avez des gens qui passent leur temps à vivre dans le passé. Ah, hier, avant-hier, il y a un an, c'était bien. Mais ils ne vivent pas dans le présent. Il y a les autres personnes qui, elles, vivent en permanence dans l'avenir. Lorsque j'aurais pu faire ceci ou cela, lorsque Dieu m'aura donné ceci ou cela, eh bien, je serai heureux. Alors, ils sont toujours dans le futur, ils ne sont jamais dans le présent. Du coup, ils ne sont jamais heureux. C'est pour ça que le bonheur, ce n'est pas un état, c'est une démarche. Le bonheur, ce n'est pas un monument en péril à sauvegarder. On n'est pas là en train de protéger son bonheur, vous savez, de peur de le perdre. Il y a des gens qui ont vraiment peur de perdre leur bonheur. Il y a des bonheurs que Dieu nous donne. Je pense par exemple, être aimé et aimer quelqu'un, moi, c'est un véritable bonheur en Dieu. Pouvoir construire une famille par la grâce de Dieu, c'est un véritable bonheur. Mais en même temps, on ne peut pas être là simplement à se dire « c'est merveilleux, j'ai une famille et tout ». Il faut aller au-delà de ces choses, d'ailleurs il faut s'en occuper, ce qui nécessite d'être debout et de se mettre en marche. Donc le bonheur, ce n'est pas un monument en péril à sauvegarder contre les tristes événements possibles. Ce n'est pas une forteresse à garder contre les agressions extérieures. Ah, vous connaissez cette citation « l'enfer, c'est les autres ». Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est-à-dire complètement isolés de tout le monde. Ce ne sont pas des citations bibliques, hein, comme vous le savez. Mais dans le fond, le bonheur, c'est une dynamique qui consiste à s'adapter, à avancer, à changer, à se transformer. En un mot, à vivre. On ne peut être véritablement heureux et connaître le bonheur que quand on a décidé de vivre. De vivre le présent. Jésus va dire « à chaque jour suffit sa peine ». Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Vous voyez, c'est tout à fait l'expression de la source du bonheur. Dans le fond, le bonheur, c'est être croyant à l'image d'Abraham, qui se met en marche en s'oubliant lui-même. Le bonheur, donc, ce n'est pas un état, je le répète, c'est une dynamique, c'est un mouvement, c'est le fait de vivre. On peut d'ailleurs, à partir de cette vision des choses, mieux comprendre le message des béatitudes. Il y a 8 fois le terme « heureux » dans les béatitudes de Jésus, donc, qu'il prononce au début de son ministère. Et ces béatitudes, dans le fond, elles vont dans le sens de ce que nous venons de partager. Pourquoi ? Parce que être heureux dans ces béatitudes, ce n'est pas une attitude passive. Heureux sont ceux qui procurent la paix. Et non ceux qui vivent en paix. Quand nous allons essayer de procurer la paix, on risque d'aller au-devant de situations dramatiques. Ce n'est pas facile d'essayer de procurer la paix dans un milieu où il y a des conflits. Et pourtant, les béatitudes nous disent « heureux ceux qui procurent la paix ». Et ce n'est pas simplement la paix en annonçant le message de l'Évangile. C'est aussi la paix en s'engageant pour aider les uns et les autres à s'entendre, à se réconcilier, à vivre ensemble véritablement et non pas d'une manière un peu comme un millefeuille où on superpose les couches hein, sans qu'il y ait vraiment de contact, puisque vous avez de la pâte, vous avez de la crème, vous avez de la pâte, vous avez de la crème, et la crème n'est jamais en contact avec la crème et la pâte non plus. Et souvent dans les églises, étrangement, là où il devrait y avoir une vie authentique, une relation authentique, eh bien, on a le sentiment parfois que c'est des couches superposées. De là, l'enseignement de Paul aux Galates. Que votre amour soit sans hypocrisie. C'est un comble quand même d'entendre des choses pareilles de la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous dit, mais que votre amour, il dit ça aux chrétiens, soit sans hypocrisie. Voilà qu'on pourrait faire croire qu'on aime alors que ce n'est pas le cas. Heureux donc ceux qui procurent la paix et non ceux qui vivent en paix. Heureux ceux qui ont le cœur pur et sont humbles et doux. Et non ceux qui sont entourés de gens au cœur pur, humble et doux. Vous voyez toute la différence ? Là, vous êtes dans l'église, alors c'est agréable, c'est humble et doux, c'est pur. Mais quand vous allez retourner à l'université, au travail, dans le voisinage, peut-être même pour certains d'entre vous dans votre famille, s'ils ne sont pas chrétiens, ce n'est pas toujours humble et doux. Et là, il nous est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur et sont humbles et doux. Et toute cette source, évidemment, est reliée à cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui font miséricorde, et non ceux qui ont la chance qu'on leur fasse miséricorde. Vous vous rendez compte, on est appelé à faire miséricorde à l'image de Dieu qui a miséricorde de nous, et non pas, comme on pourrait le penser, à ceux qui ont la chance qu'on leur fasse miséricorde. Nous avons eu la chance, et nous avons compris que Dieu nous faisait miséricorde en Jésus-Christ. Il a fallu donc nous repentir pour accéder à cette réalité. Mais en même temps, le Seigneur a fait une démonstration de ce qu'est la miséricorde au milieu d'un monde qui l'a rejeté. Et nous devons nous aussi penser à cela. C'est en agissant ainsi dans l'adversité qu'on va connaître quelque chose de particulier. La joie, le fait d'être heureux, connaître le bonheur de vivre comme Christ a vécu. Le bonheur, c'est d'apporter la paix, le bonheur, c'est de pardonner. Le bonheur, c'est d'aimer. Les béatitudes vont toutes dans ce sens. Elles ne parlent pas par rapport à soi, mais par rapport à ce que l'on peut apporter et donner aux autres. Et même les quatre béatitudes qu'on va dire un petit peu plus difficiles à comprendre, celles qui semblent négatives, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, qui ont soif et faim de justice, ceux qui sont persécutés. Ce sont, on peut dire, des béatitudes, on va dire, en creux, parce qu'elles représentent un vide. Le vide, on a faim et soif de justice, il y a donc un manque, il y a un vide. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Comme les disciples disaient, augmente-nous la foi, Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a un vide. Mais formidablement, ce vide va nous permettre justement de recevoir. Donc si vous vous sentez, frères et sœurs, non équipés, mal équipés, limités, j'espère que vous vous trouvez limités, hein, comme moi-même, au lieu que ce soit un sujet de découragement, d'affaiblissement de notre volonté, ça doit être justement une réalité qui va nous amener à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être rempli de ton esprit, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit, et ça va nous conduire évidemment dans l'obéissance. Seigneur, donne-moi d'avoir faim et soif de justice. Seigneur, donne-moi d'aimer. Je me souviens de cette personne qui me disait, je n'aime pas ce chrétien-là. Alors, c'était une chrétienne. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça m'arrive moi aussi de ne pas aimer spontanément tous les chrétiens. Quoi. Et je lui ai dit, mais par contre, si on demande au Seigneur, il va nous donner l'amour qui est dans son cœur pour cette personne, il va verser cet amour dans le nôtre. Donc j'étais en creux, j'étais vide. Et c'est vrai que ça marche. Hein. Vous vous mettez à prier pour quelqu'un qui n'est pas très agréable ou pas très facile, c'est extraordinaire comment Dieu est capable de changer les choses. Mais évidemment, il faut prier, hein. Il faut le vouloir, il faut vouloir que Dieu exauce, hein. Parce que si on prie du bout des lèvres, bon. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'accueille, et pour accueillir le bonheur, ben, il faut être vide, avoir de la place. Donc réjouissons-nous, quelque part, de ne pas avoir en nous les capacités divines. Dieu veut les verser. Hein, quand l'Épître aux Romains nous dit « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné », c'est parce que si le Saint-Esprit ne fait pas cela, l'amour de Dieu, on ne l'a pas. Et c'est donc cette relation permanente entre le Seigneur et nous-mêmes qui fait que son esprit nous remplit de son amour et de sa présence. Le bonheur évangélique, dans le sens biblique du terme, ce n'est pas l'absence de malheur ou de souffrance. Le bonheur évangélique, c'est d'être dans une dynamique de la vie. Heureux ceux qui sont persécutés parce que ceux-là le sont parce qu'ils remplissent leur mission. Ils ont choisi de servir les autres, d'avoir une utilité. Et cela peut se faire payer au prix de leur propre confort, voire au prix de leur vie. Le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit le Seigneur. Mais quand nous allons partager l'Évangile, parfois il nous arrive d'être persécutés, d'être rejetés, d'être repoussés. La fête de la musique, ça a été l'occasion de partager l'Évangile. Il y a des gens qui étaient intéressés, il y en a d'autres. Vous savez, ils vous envoient de ces réflexions. Collègues de travail, c'est pareil. Vous avez des collègues de travail, ils vous accueillent, ils sont contents, ça les intéresse. Il y en a d'autres, ils se moquent de vous, ils vous tournent en dérision, etc. Mais dans le fond, c'est parce qu'on a décidé d'être actif, d'obéir au Seigneur, de partager son évangile, l'amour qui est dans nos cœurs, qu'on se trouve en butte à la persécution. C'est pour ça que le bonheur évangélique, ce n'est pas l'absence de malheur, de souffrance ou d'opposition. Mais c'est quand on agit qu'on est dans la volonté de Dieu. Et chose étrange, pour avoir fait pas mal de travail dans la rue, en hiver, en été, dernièrement c'était, vous me direz, c'est paradisiaque, hein, c'était sur l'île de la Réunion, mais c'est extraordinaire, vous avez une chaleur à vous plaquer au sol, hein. Je vois le frère qui est en train de s'éventer, c'est terrible comme chaleur, c'est étouffant. Mais vous ne sentez pas la chaleur quand vous parlez du Seigneur. Quand il fait froid, vous avez vu ça dans les rues de Paris, des fois il fait froid. Vous parlez du Seigneur, vous avez froid, vous commencez à parler, vous avez chaud. Puis vous ressortez de là, vous dites, mais quelle joie d'avoir pu parler du Seigneur. Vous n'avez pas senti le climat, la température qui était en dessous de zéro. C'est extraordinaire. Voilà ce que le Seigneur nous propose. Alors vous me direz, mais dans le fond, tout ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses que les non-chrétiens accomplissent, aider les autres, vivre pour les autres. Moi, je connais des gens, des militants, des gens qui sont engagés dans toutes sortes de mouvements, qui ne sont pas du tout chrétiens, qui professent même leur athéisme, et qui font ces choses, à part évidemment de témoigner de Jésus-Christ, parce qu'eux, ils témoignent contre, mais pour tout le reste. Et je me suis rendu compte que, du coup, ils passaient du bonheur éphémère, et que le chrétien, lui, passe du bonheur éphémère au bonheur éternel, c'est-à-dire un bonheur permanent. Parce que sans Dieu, on peut ressentir de la joie de rendre service, d'être utile à son prochain, de sacrifier certains conforts pour aider les autres. Mais quand on se retrouve tout seul, on est tout seul. Alors que le chrétien, quand il se retrouve physiquement tout seul, il n'est pas tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, le Seigneur, me garde, jamais ne me laisse seul. Le Seigneur est là. Ah, je prends une aussi belle voix que mon gain. Vous connaissez Dustin Hoffman? Vous connaissez, hein? Bon. Grand acteur américain, voilà ce qu'il a déclaré. Je ne sais pas ce qu'est le bonheur. Je me souviens que lorsque j'essayais de joindre les deux bouts à New York, un psychiatre m'a demandé ce que je voulais de la vie. Je lui ai répondu, je voudrais avoir un emploi, des enfants et vivre dans un appartement à Manhattan. Aujourd'hui, j'ai tout cela. Et je dois toujours aller voir mon psychiatre. Quand même, il a tout et il continue avec ses séances d'analyse. Alors donc, qui nous fera voir le bonheur, comme nous l'avons lu tout à l'heure au chapitre 4 des psaumes, le psaume 4, versets 7 à 8, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand t'abandes leur froment. et leur mou. C'est-à-dire quand la récolte est bonne et qu'ils ont de l'argent qui va rentrer dans la banque. Hein. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai rencontré pas mal de personnes hein, depuis que je suis chrétien qui m'ont dit « J'aimerais avoir votre foi. On est si heureux quand on croit. » Vous en avez rencontré des comme ça ? Eh, répondez-moi, ça me ferait plaisir. Non ? Alors, c'est que vous ne leur parlez pas. Il va falloir leur parler. Hein. Vous allez voir, il y a plein de gens qui vous disent « Mais j'aimerais avoir la foi comme vous. » En effet, la foi, elle donne un sens à la vie. Le bonheur de vivre, le bonheur de savoir pourquoi l'on vit et pour qui l'on vit. Vous regardez Money Drop de temps en temps ? Non ? Oui ? Bon. Money Drop, j'étais frappé l'autre soir, je regardais, ma femme aime bien regarder ça. Et alors on leur a dit, vous avez 250 000 euros, qu'est-ce que vous voulez en faire ? J'écoutais les réponses. Mais c'est incroyable, les gens ne pensent qu'à eux. Je vais aller en Californie, les États-Unis, machin. Je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Quelques mères de famille pensent à leurs enfants, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est assez souvent égocentrique. Je me suis dit, mais c'est une génération, c'est une société qui a plus qui ne se pose plus les grandes questions, les vraies questions. Pourquoi on vit, pour qui on vit ? Alors on leur met un paquet d'argent, là, puis ça y est, on les a achetés. Ils sont bons. Mais nous, c'est différent. En tant que chrétiens, on sait pourquoi et pour qui l'on vit. Sans la foi, la vie devient absurde. Plus rien n'a de sens. Et c'est vrai que je n'ai jamais rencontré un athée qui m'ait dit « Je suis dans le bonheur de savoir que ma vie n'a pas de sens. Que tout se terminera dans le cimetière, dans le cercueil. » Vous en avez déjà vu un comme ça ? « Je suis heureux. Ma vie n'a pas de sens. » Je vais me retrouver dans mes quatre planches, youpi youpi. J'en ai pas vu, moi. J'en ai qui m'ont dit, j'ai pas peur de la mort, je crois pas en Dieu, après la mort, il n'y a plus rien. Je me prolonge dans ma descendance, mes enfants, machin truc. Et quand je lui dis, bah et alors, à part ça, bah, à part ça quoi ? Je lui dis, bah alors, t'existes plus ? Bah non, j'existe plus. Puis au bout d'une heure, une heure et demie, ouais, bon, c'est vrai, la vie, c'est pas drôle. J'aimerais bien avoir la foi, Et puis, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui dit « Je frémis d'allégresse de savoir que toute ma vie, femme, enfant, travail et force seront anéantis par la mort. » J'en ai jamais rencontré des gens comme ça. Je rentre dans ma 46e année de vie chrétienne, j'ai jamais rencontré des gens comme ça. Par contre, j'ai rencontré tant de chrétiens nés de nouveau, remplis de bonheur de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Tous regrettent souvent de ne pas avoir donné plus tôt leur cœur à Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. La Bible dit en effet que le bonheur est pour ceux qui craignent ou qui aiment Dieu, en Ecclésiaste chapitre 8, verset 12. J'ai aussi accompagné des chrétiens dans les derniers jours de leur vie qui resplendissaient de la paix intérieure de Dieu, qui rayonnaient d'une joie profonde parce qu'ils allaient rencontrer leur Sauveur, parce qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ. J'ai dû vous en parler de cette collègue de travail que le Seigneur a rappelée. Elle avait 40 ans, deux enfants, mariés, et à l'hôpital, dans le service des soins palliatifs, quelques minutes avant son départ pour la patrie céleste. Son mari s'est penché au-dessus d'elle pour l'embrasser, et puis il pleurait. Et alors elle, qui était en train de perdre, de rendre le dernier souffle, elle l'a regardé, puis elle lui a dit « Pourquoi pleures-tu » Vous vous rendez compte ? Et puis, quelques minutes après, elle est partie rejoindre son Sauveur. Le bonheur, bien entendu, ça passe par le pardon des péchés. La Bible dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Heureux l'homme dont la faute est effacée, le psaume 32, verset 1 à 5, et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, et qui est exempt de mauvaise foi. Vous savez, quand on vient à Dieu, qu'on soit non-chrétien ou chrétien, il ne faut pas qu'il y ait de la mauvaise foi dans nos cœurs. Parce que si on n'est pas encore chrétien et qu'on essaye de négocier avec Dieu, ça ne marche pas. Et quand on est devenu chrétien, par la grâce de Dieu, et qu'on a besoin de confesser quelque chose, mais qu'on ne veut pas reconnaître la réalité de notre responsabilité. Je connais des chrétiens comme ça. C'est jamais complètement de leur faute. Mais qu'est-ce que vous voulez quand quelqu'un arrive devant Dieu en disant « Seigneur, ce n'est pas de ma faute, j'ai commis un péché », mais ça ne marche pas. « Seigneur, j'ai commis un péché, point. » Je ne cherche pas d'excuses. Quand quelqu'un vient vous demander pardon, si la personne commence à s'auto-justifier, ce n'est pas une demande de pardon, ça. C'est une demande d'auto-justification. Et vous n'aimez pas ça. Et moi non plus. Et Dieu n'aime pas la même chose. Quand on arrive devant lui pour essayer de négocier un pardon, mais ça ne fonctionne pas. On est responsable, quelles que soient les circonstances. Quand on a mal agi, on a mal agi. Vous savez, souvent les gens ils disent « c'est à cause de toi que je me suis mis en colère ». Mais non. On peut ne pas être content et ne pas se mettre en colère. Tant que je taisais ma faute, oh là, il faut que je m'arrête. Vous connaissez le verset. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Et le bonheur n'est jamais dans la désobéissance au commandement de Dieu. La Bible nous enseigne aussi que le bonheur passe par l'obéissance au commandement de Dieu. Il est écrit dans le psaume 106, verset 3, « Heureux celui qui observe la loi ». Ou encore « Heureux ceux qui gardent les commandements » ou « Tes commandements », psaume 119, verset 2. Dieu nous a donné des lois pour notre bonheur. Or, certains pensent que pour être heureux, il faut vivre sans loi. Quand Dieu nous dit « Ne fais pas cela », c'est aussi en vue de notre bonheur. Quand Dieu nous dit « Fais cela », c'est aussi en vue de notre bonheur. Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Et s'il nous interdit certaines choses dans sa loi, rappelons-nous que c'est pour notre bonheur. Le bonheur n'est jamais dans la désobéissance au commandement de Dieu. Mais puisque vous avez fait de la théologie, vous allez me dire, mais Jean, la loi, elle n'a pas été donnée pour que nous la mettions en pratique, elle a été donnée pour nous révéler notre péché. Et c'est le principe de toutes les religions, essayer de plaire à Dieu par ses propres efforts. La Bible nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue, Paul, aux Galates, pour nous conduire à Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'obéir ? Eh bien, justement, le miracle que Dieu accomplit lorsqu'on se réconcilie avec lui, c'est la chose suivante. Il dit en Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27, c'est une promesse de Dieu qui s'accomplit en Jésus-Christ. « Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements. » Ce que Dieu nous demande, il nous a donné la possibilité de le vivre. Autrement dit, il y a une forme de proverbe qui dit « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Quand Dieu nous demande de vivre pour lui en Jésus-Christ, il a changé notre nature dans nos corps mortels par la nouvelle naissance, qui nous donne une intelligence, un cœur, une âme qui adhère à sa loi, qui, par la puissance du Saint-Esprit, nous permet de la vivre. Voilà ce qui est véritablement le bonheur, le fait d'être heureux, être réconcilié avec Dieu, vivre pour les autres, et en vivant pour les autres, pratiquer les commandements de Dieu, la loi de Dieu qui est juste, agréable et parfaite, comme sa volonté. Et ces choses sont rendues possibles par cette nouvelle naissance, par le Saint-Esprit dont nous avons été baptisés au jour de notre conversion. Que Dieu conduise chacun d'entre nous dans ce bonheur et dans cette vie heureuse. Vous avez les vacances devant vous, vous aurez le temps de réfléchir pour appliquer à la rentrée eh bien, cette possibilité, en 2000, début, fin 2014, début 2015, de vivre en étant heureux et rempli de bonheur, en obéissant au Seigneur par la puissance de son Esprit et en son nom. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen.